puisque j'avais proposé justement, moi, d'écouter d'abord quelques questions. Xavier a dit non, non, ça va faire du désordre.
Et pour l'ordre.
Mais comme là, vous sortez quand même d'un exposé d'une heure et demie, hein, comme respiration, je pense que ça serait pas mal, hein, madame disait, hein, que sans que je réponde au moins à chaque chose, mais que vous fassiez part de propres réflexions pendant 5 minutes. Voilà. Vos remarques, parce que vous disiez que vous aviez des questions.
Je commence tout de suite pour ne pas perdre de temps. Le judaïsme est malgré tout aussi, j'allais dire, éclaté, en tout cas divers. On n'a pas trop entendu les divergences qui peuvent exister entre les ultra-orthodoxes, les ultra-libéraux, la présence de femmes rabbins.
Ça ne risquait pas.
Je me doute.
Parce que quand j'ai connaissance avec monsieur le rabbin, bon, je ne sais même pas encore le nom de parrain. Voilà. Voilà. Avec une grande politesse, pendant que vous étiez en train de déguster la salade de piment, avec très poliment, il a commencé par m'engueuler. Hein, parce qu'il ne me connaissait pas, et donc ça veut dire que je n'étais pas là assez souvent. Vous voyez ? Voilà, hein, déjà. Bon. Alors je lui ai dit que... parce que moi, il se trouve que, comme vous avez vu, comme je suis un peu le joker, il se trouve que moi, par contre, je connais beaucoup de monde, et notamment très bien Gilles Bernheim, qui est son grand ami. Hein. Et ce qu'il m'a expliqué, c'est que quand Gilles Bernheim est devenu grand rabbin de France, il a demandé à lui de le remplacer. Hein. Donc il a une position importante, ce monsieur. C'est lui, c'est la question posée l'un d'entre vous, c'est bien le principal rabbin de la Victoire, qui est la principale synagogue de France. Hein. Voilà. Et, il a tourné avant, il a dit hein, à Angers, Tours, Avignon. Voilà. Et Avignon. Et
alors, vous auriez pu engueuler parce que vous ne le connaissez pas bien.
Comment ?
Vous auriez pu engueuler parce que vous ne le connaissez pas bien. Alors que vous connaissez tout le monde.
Voilà. Alors, engueuler, c'est un gros mot. Enfin, il a commencé à me faire la leçon. Parce que j'ai dit, moi, je suis plutôt philosophe. Il dit, oui, mais il n'y a pas que... Hein, dans ce cas-là, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas que... comment dire, la pensée, il y a aussi l'action. Hein. Voilà. L'action, pour lui, c'est le rite. Alors, j'ai dit, il y a toutes sortes d'actions. Hein. J'ai dit que je fréquentais aussi des libéraux, ça n'y a pas plus. Hein. Il m'a parlé des téphilis. Tout ça en 2 minutes, pendant qu'on buvait un verre d'eau, vous voyez, hein. Donc, c'est quand même quelqu'un de très... Alors, de très militant. Et alors, évidemment, il n'est pas là. Donc, et de toute façon, moi, j'ai trouvé très sympathique. Hein. Il est très, très, très jeune, en même temps, dans sa manière. Hein, très, voilà. Hein, et puis c'est quelqu'un de très compétent et qui est, et en plus le français doit être sa troisième, c'est pas quatrième langue, hein, voilà, bon, bien. Mais il y avait évidemment, et moi-même j'en ferai tout le temps, il y avait évidemment beaucoup d'inexactitudes dans ses propos. Hein, on en parlait tout à l'heure, l'une des inexactitudes, c'est quand il a dit que les chrétiens ne pratiquaient pas la circoncision. Et, hein, alors qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, moi-même j'ai découvert très tard, enfin il n'y a que les catholiques qui ne pratiquent pas la circoncision. Hein. Les Coptes à Paris pratiquent la circoncision, tous les chrétiens d'Orient, hein, malgré Paul justement, comme vous savez, Paul était contre, mais justement les Coptes ils n'ont pas écouté Paul, enfin les chrétiens c'est comme les juifs, hein, ils se disputent entre eux aussi. Hein. Et tous les Américains et les Australiens sont circoncis, enfin oui, hein, voilà. Bon. Donc c'est beaucoup plus compliqué la question de la circoncision. C'est pas les musulmans le font circoncision existait bien avant les religions du livre. Hein, voilà. Simplement les juifs en ont fait un certain usage, ils ont donné une certaine signification, une certaine manière de le faire. Hein, c'est comme pour la recette de cuisine. Hein, en France, sa manière de faire le couscous, c'est sa manière de circoncire. Mais en réalité, la circoncision, hein, là aussi moi j'ai partagé tout ça parce que je suis né en France, j'étais éduqué à l'école publique, etc. J'ai vécu dans un milieu catholique. Ça, j'ai eu souvent moi-même des élèves qui pensaient que être chrétien, c'était être catholique. Vous voyez ? Hein ? Et si je dis ça à mes amis pop, ils s'évanouissent. Hein ? Parce que pour eux, un catholique, c'est un assimilé. Hein ? Il n'y a plus rien de chrétien. Vous voyez ? Hein ? Là, il ne s'est même plus tué un mouton. Enfin, vous voyez ? Hein ? Donc, alors justement, c'est pour ça que c'est bien cette formation que vous recevez. Parce que ça ouvre un peu l'esprit, hein, voilà, sur la diversité. Hein. Moi aussi, j'ai cru, par exemple, vous voyez, le genre de préjugé que je dirais catholique ou laïque catholique, hein, parce que chaque religion a sa laïcité. Hein. Un laïque catholique, c'est pas un laïque protestant, c'est pas un laïque juif. Et moi, j'ai cru toute une partie de mon enfance, pourtant j'étais bon élève, que c'était les orthodoxes qui avaient rompu avec les catholiques. Vous voyez? Et j'ai découvert que le schisme, c'était en fait Rome qui avait rompu avec les chrétiens d'Orient, hein, qui leur en veulent toujours. Vous voyez, hein? Bon, bien. Voilà. Alors ça, c'était pour dire qu'il faut faire attention. Mais évidemment, il est probable que lui-même n'a jamais réfléchi à ça. Et moi-même, j'ai découvert tard. J'ai découvert quand j'ai vu dans une revue que les Coptes pratiquaient la circoncision. Je ne savais pas. À Villejuif, hein, à Paris, voilà. Hein, je ne savais pas tout ça. Oui.
Oui, juste sur la question de Karim, on a la conférence prochaine sur le judaïsme traite particulièrement de la diversité au sein du judaïsme. Donc, vous ne l'avez pas...
Là, j'étais sur la diversité au sein du christianisme.
Je pensais que c'était moi qui l'ai posé.
Donc, il faut être spécifique
sur le sujet.
Il y a quelqu'un qui va parler de ça ?
C'est Yann Boissier. Pardon, excuse-moi. Yann Boissier.
Mais c'est une question portée par l'ensemble.
C'est l'intelligence
collective. C'est du ministre.
Bon, mais je ne vais pas faire une conférence là-dessus, bien sûr. Mais je peux répondre à la question. C'est une question dont j'ai l'habitude aussi, puisque moi, comme je lui ai dit, je suis irénique, c'est-à-dire que j'accepte toutes les tendances. Il a dit lui-même, d'ailleurs, si vous avez fait attention, parce que ça va vite quand même, que ça a toujours été. Hein? Puisqu'il a cité que dans l'Antiquité, alors comme il a dit en hébreu, tout le monde n'a pas forcément compris, quand il a parlé de Shomrim, c'est les Samaritains, hein, et de Sadukim, c'est les Sadducéens. Et quand il a dit, alors ce qui est amusant, c'est qu'il a identifié le consistoire de Napoléon aux pharisiens de l'Antiquité. Vous voyez, quand il a dit la tradition, vous voyez, hein? Alors, c'est intéressant, mais il faut avoir une conscience historique. Hein? C'est-à-dire qu'il se...
Il a essayé de nous instrumentaliser, vous allez nous remettre en droit chemin.
Non, il n'a pas essayé de nous instrumentaliser, il parle de son point de vue. Voilà, hein? Et pour lui, la tendance consistoriale française est, selon lui, dans... la continuation du pharisaïsme. Voilà. Hein? C'est comme ça c'est très clairement, hein, qu'il oppose aux Sadducéens, hein, par exemple. Hein? Et les Sadducéens, c'est pareil, ça aussi, j'ai compris ça assez récemment, une vingtaine d'années en discutant, c'est que d'une certaine manière, les Sadducéens existent toujours. Hein? Puisque hein, les débats que vous avez dans la Bible entre les Sadducéens, c'était ceux qui s'occupaient du temple, tout ça. Hein? Et en fait, les Sadducéens correspondraient aujourd'hui aux laïcs, hein, c'est-à-dire ceux qui prennent au sérieux les institutions. Ben, lui, il a à côté Sadducéens aussi, hein, il a parlé de ça, l'importance du mariage civil avant le mariage religieux. Vous voyez, un vrai pharisien. Hein, voilà. Alors c'est pour ça qu'il a parlé parfois des ultras, hein, parce que le consistoire est débordé d'un côté par toute une série d'activités juives. Qu'on appelle donc ultra-orthodoxes, puisque eux, on les donne orthodoxes. Et, ce qui crée parfois des conclusions avec les chrétiens orthodoxes, pour ceux qui ne connaissent pas. Hein, parce qu'orthodoxe, c'est ceux à orthodoxa, c'est, hein, ça veut dire qui s'en tiennent à la doctrine. Juste doctrine. Hein, hein, bon. Alors les ultras, eux, ne reconnaissent pas le consistoire en France. Hein, et il y en a beaucoup de variétés. Hein, beaucoup de variétés, parce qu'il y a d'abord. Ceux que vous connaissez parce qu'on les voit dans les rues, hein, de plus en plus, hein, c'est les confréries de Hassidim. Hein, mais là aussi, Hassidim, non pas au sens de Hassidim de l'Antiquité, mais du mouvement hassidique qui est né au XVIIIe siècle en Pologne et qui a de nombreuses branches, hein, dont celle qui est la plus importante en France, c'est les Lubavitch. Hein, voilà, du nom d'une ville de Russie qui s'appelle Lubavitch. Hein, et où il y avait un mouvement chassidique qui a la gloire d'être le seul, paraît-il, la seule activité juive, religieuse, qui s'est maintenue clandestinement pendant toute l'époque communiste. Donc ça leur donne une certaine aura. Hein. Mais il y en a d'autres, hein, et, je ne vais pas vous citer maintenant, justement, ça sans doute... vous l'aurez dans la conférence, hein, il y a les chassidim de Gour, il y a les chassidim de Bratislav. Et il y a des films qui ont été faits sur ces gens-là, il y en a beaucoup à New York, à Brooklyn, tout ça. Hein, ça, c'est les chassidim. Non, mais c'est qu'une variété des ultra-orthodoxes, hein, les chassidim, parce qu'il y a toujours les autres ultra-orthodoxes qui n'ont pas reconnu, au XVIIIe siècle, le mouvement chassidim. Hein, ce qu'on appelle les mitnagdim. Hein, c'est-à-dire qu'ils s'opposent aux chassidim, qu'ils considèrent comme des idolâtres. Hein, D'ailleurs, à l'époque, le chef des Mitnagdim, qui est le plus grand penseur juif moderne, on peut dire, le gars de Vilna, puisque Vilna, la petite Jérusalem, hein, ça c'est l'histoire presque contemporaine, c'est le XVIIIe siècle. Hein, Vilna était le sommet du monde de l'étude juive, se trouvait à Vilna. Et depuis, la communauté juive de Vilna d'abord a été exterminée, mais ceux qui sont survécu se sont disséminés partout. Hein, partout, voilà. Et alors ces gens-là, qui ont leurs écoles, etc., aussi, c'est des écoles très, très nombreuses, très, très, très intenses, étaient très opposés au mouvement chassidique. Pour eux, c'était une vulgarisation, tous ces gens qui dansaient, qui chantaient, là, hein, ils étaient beaucoup plus austères, beaucoup plus intellectualistes, et le gars de Vilna avait demandé aux autorités de son temps, les Russes, de les mettre en prison. Vous voyez, hein, voilà. Alors maintenant, en Israël, ils continuent à se disputer. Hein. Même en France, hein, il y a des écoles juives, quand il y a des écoles juives qui sont chassidiques, d'autres qui sont mitnagdim, voilà, opposantes, voilà, hein, plus austères. Hein, voilà. Ça forme tout un milieu que lui appelle les ultras, parce que ceux-là, ils ne reconnaissent pas le consistoire, ils considèrent que le consistoire, c'est des gens assimilés, quoi. Voilà. Hein. Après, vous avez le consistoire. Alors, une chose qui est très drôle, quand il a dit « nous sommes majoritaires », alors, c'est sympa. C'est-à-dire qu'en tant qu'autorité constituée et reconnue, évidemment, hein, les ultras ont un petit côté marginal. Hein, et voilà. C'est compliqué le monde d'aujourd'hui. Hein. Moi, un jour, j'ai eu un chauffeur de taxi à New York qui parlait français et tout ça. Et bien, mais, parce qu'il était allé donc dans une yeshiva, hein, que le juif traditionnel, à Armentières-en-Brie. Hein, voilà, et donc moi je ne connaissais même pas. Bon. Hein, donc il y a ce milieu ultra-orthodoxe, il y a le milieu dit orthodoxe qui est celui, le milieu consistorial, mais en fait, quand le consistoire, ils sont 20 000. Hein, les gens qui payent, qui votent. Hein, voilà, hein, savoir ça. Hein, alors qu'on estime, alors, après les estimations de la population juive, ça c'est très difficile. Hein, voilà, hein, parce que qui est juif, qui ne l'est pas. Hein, vous voyez, hein, vous connaissez la réponse de Goebbels à Fritz Lang. Hein, quand Goebbels avait demandé à Fritz Lang de collaborer, il voulait les grands artistes. Hein, voilà, hein. Vous savez, comme Napoléon avait demandé à Chateaubriand qu'il avait envoyé promener. Hein, et à Napoléon, bon, premier, hein, il disait, oh là là, j'ai les petits artistes avec moi et les grands contre moi. Il n'était pas content. Voilà. Chateaubriand détestait Napoléon premier. Alors de même, Goebbels a demandé à Fritz Lang de collaborer, quoi. Il dit, mais ma mère est juive. Hein? Et que Boss était agacé. Il dit, écoutez, c'est nous qui décidons qui est juif. Hein? Et après, Fritz Lang s'est sauvé aux États-Unis. C'est, hein?
Bien. Et donc, vous y avez 20 000 sur combien d'estimés?
Alors, voilà. Ouais. Moi, à ma connaissance, le chiffre qu'on donne le plus fréquemment, voilà, c'est 600 000. Hein? Parce qu'on disait toujours, il y a 1% de juifs en France. Vous voyez? Mais certains disent qu'il y en a moins. Hein, parce que, à la limite, il y a des gens qui s'affirment comme juifs et des gens qui renoncent à leur identité. Donc il y en a qui disent 400 000, d'autres 600 000, hein, et il y a aussi des gens qui disent qu'en fait, il y en a beaucoup plus. Hein, parce que, voilà, ça peut monter à 100 ou 200 000 de plus. Hein, vous voyez, c'est une fourchette. Hein, parce que tout dépend, parce que vous avez des gens qui sont complètement assimilés, mais qui sont d'origine juive. Hein, voilà. Hein. Y compris, ce qui ne simplifie pas les choses, mais quand on s'y intéresse, hein, pour l'anecdote, puisque vous me posez la question, les juifs de France. Parce que, là aussi, quand j'étais à l'école laïque, etc., ça change. On n'enseignait pas l'expulsion des juifs de France. Hein, moi, on m'avait enseigné à peu près l'expulsion des juifs d'Espagne, mais l'expulsion des juifs de France 100 ans avant était aussi importante. Hein, 100 000 juifs ont été expulsés en 1394, voilà, en plusieurs fois. Hein. Donc c'était un traumatisme considérable dans l'histoire juive, mais ça ne commence à être pris en compte aujourd'hui, parce que les juifs étant une minorité, et puis l'école républicaine étant, on peut dire, hégémoniste, voilà, hein, vous voyez, a toujours eu tendance à minorer les dissensions internes, et en plus, comme je dis, la laïcité française est une laïcité catholique.
Ça veut dire quoi, ça?
Alors, ça va être vraiment une question.
Alors, est-ce que, avant de continuer, c'était quelle date vous avez dit l'expulsion des juifs de France?
Là, il y a eu plusieurs expulsions, mais la dernière définitive, massive, c'est en 94, je crois. Hein, 1394. Ou 95, hein, je ne suis pas historien.
François Ier aussi, un peu plus tard. Sous François Ier, il me semble aussi, mais enfin bon.
Ah non, il n'y avait pas de juifs. Non. Alors, il faut voir aussi ce qu'on appelait la France. Hein. Voilà. Mais,
juste Claude, pardon, il va peut-être falloir revenir sur le sujet de cœur.
Je termine.
Non, t'inquiète pas. J'ai
l'habitude. Voilà.
La question c'était
le nombre de juifs.
C'était la laïcité française et une laïcité catholique. Ah.
Oui. Alors comme vous le savez, j'ai compris ça un jour en classe, hein, puisque j'ai été professeur de philosophie pendant au moins 40 ans, hein, notamment en classe préparatoire, et comme parallèlement j'étais aussi professeur de pensée biblique, il m'arrivait de parler un peu de la Bible, et souvent ça choquait les élèves au début. Ils avaient du mal, ils n'aiment pas. Hein, voilà. Et y a deux manières de ne pas aimer qu'on parle de la Bible en classe, hein, bien sûr, ça peut être par laïcisme. Vous voyez, je fais de la formation pour les professeurs aussi, par exemple, le professeur de sciences naturelles. Un jour, on m'avait fait venir à Versailles, les jeunes capétiens de sciences naturelles, il y avait toute une salle, et donc on donne la parole. Alors, question, un monsieur que la religion c'est des bêtises.
Ah, c'est bien.
Ça, c'est la laïcité. Hein, hein, la religion c'est des bêtises, c'est irrationnel. Voilà. Hein, Voilà. Donc, si vous voulez, vous avez des préjugés laïcistes contre les traditions religieuses qui sont en réalité très fortes. Il faut savoir. Notamment chez les enseignants. Hein, une grande partie des enseignants, quand j'étais jeune, étaient souvent les choses par le monde, ils étaient communistes. Vous voyez, hein, il y a une tradition communiste d'hostilité en religion. Hein, les communistes sont persécutés. Hein, j'avais vu une fois dans une exposition que Staline avait fait détruire 500 monastères bouddhistes en Mongolie. 500. Oui. Donc pour s'en parler des juifs et des chrétiens, c'est pas, hein, donc il y a une tradition d'hostilité aux traditions religieuses qui a existé dans le communisme et dans la laïcité républicaine. Comme ça, hein. Mais il y a autre chose. Il y a le fait que la lecture de la Bible, hein, tout ça, ce n'est pas des choses que je savais à l'adolescence, était interdite chez les catholiques. Jusqu'en 1904.
La lecture de la Bible est interdite.
Absolument.
C'était soumis aux autorisations de l'évêque.
Interdite avec les transgressions.
Très sèvres, effectivement.
Pour être précis, c'était soumis aux autorisations de
l'évêque. Après, il y a tous les liens.
Ça a été libéré. Et puis ensuite, c'était réinterdit.
À cause des protestants. Hein?
Grâce.
Moi, j'ai. Lire la Bible chez soi, c'est protestant.
Pour revenir au sujet.
Voilà, donc j'ai terminé là-dessus. Donc, hein, donc, beaucoup de jeunes gens d'origine catholique et devenus laïcs sont encore embarrassés quand on leur parle de la Bible parce qu'ils sentent que c'est pas bien. Vous voyez ? Mais c'est pas parce qu'ils sont laïcs, c'est parce qu'ils sont catholiques.
C'est clair.
Voilà. Bon, je termine là-dessus. Alors, je termine sur la population juive, c'est que donc il y a eu ces expulsions, mais beaucoup de juifs ont échappé à l'expulsion par la conversion. Ce qui fait que vous avez aujourd'hui un certain nombre de gens d'origine juive, hein, puisque là aussi les gens ne se rendent pas compte, on est habitué à croire que les juifs viennent de l'étranger. Ça, moi-même, quand j'étais petit, dans Zola, hein, vous voyez, ils ont un accent, ils sont allemands, ou voilà. Mais les Juifs, ils sont arrivés en Gaule avec les Romains, et même peut-être avant, hein, parce que les Carthaginois, ils sont arrivés au VIe siècle avant Jésus-Christ, hein, en même temps que les Gaulois. Voyez, donc il y a toujours eu des Juifs en France. Bon. Et donc quand ils ont été expulsés au XIVe siècle, eh bien, beaucoup se sont convertis. Et donc vous avez aujourd'hui des gens qui sont d'origine juive, qui souvent ne savent pas eux-mêmes. Je pourrais vous raconter beaucoup d'anecdotes quand ils le redécouvrent. Voilà. Hein, bon. C'est sur ce point. Donc il y a une tradition juive en France, et on estime la population juive en France en gros à 1%, et d'après mes copains historiens, ils disaient, dont il y a 1% de juifs en France, dont 20% des juifs à Paris. Hein, fait. Hein, je ne sais pas, 400 000 juifs à Paris. Hein, et 10% en banlieue à Paris. Hein, et les autres répartis à Marseille, Lyon, mais finalement très peu. Hein, voilà. Voilà. Et ça, c'est une tradition juive très ancienne que d'être urbanisé. Mais au Moyen-Âge, il y avait des juifs paysans, il y avait des juifs. Ça aussi, il faut se rendre compte. Hein, il y avait des juifs chevaliers avec des châteaux, des épées, tout ça. Hein, voilà, hein. Et les vrais soucis des juifs en France ont commencé à l'époque des croisades. Hein, mais avant, c'était, comme on dit toujours, heureux comme Dieu en France. Hein, voilà. C'est compliqué l'histoire. Mais comme le dit très bien et à juste titre Xavier, il faut s'arrêter sur ces.
Pour commencer.
Il faut savoir s'arrêter.
Je voulais juste dire donc d'une part que la circoncision était plus répandue que ne le disait le rabbin, et d'autre part que le consistoire était moins représentatif qu'il ne l'estime. Hein, la communauté. Hein, et donc vous avez les ultras. Hein, vous avez les consistoriaux, et après, vous avez, ce qu'il a dit lui-même, les réformés. Hein. Et là, il y a deux sortes, il y a les conservateurs et les libéraux. Hein. Et tout ça, ce sont des gens qui ont des pratiques cultuelles. Hein. Et par exemple, vous avez, à Paris, il y a 8 communautés libérales. Hein. Et chez les libéraux, il n'y a pas de différence homme-femme, et comme vous savez, il y a plusieurs femmes rabbins. Hein. Voilà, bien.
Allez,
bon, allez. Et enfin, mais il ne faut pas l'oublier, parce que vous avez parlé de bioéthique, hein, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les laïcs. Hein, on peut très bien être juif et affirmer une identité juive forte, tout en n'ayant pas de pratique rituelle. Hein, voilà, hein. Et quand on me demande, parce que je fais beaucoup d'éthique médicale, d'intervenir sur la position des juifs à l'égard par exemple de la contraception, voyez, hein, je rappelle que ce sont des juifs qui ont inventé la pilule. Hein, d'abord Pincus, mais aussi Beaulieu. Hein, le RU, c'était. Hein, Beaulieu, c'est son nom de guerre. Hein, c'est un juif polonais qui a été président de l'Académie des sciences et qui a inventé le RU 485. Hein, voilà, hein, donc, il y a toutes les positions. Hein, voilà, bien. Et Simon Weil, hein, voilà. Alors. dont il a rappelé, c'est pour ça que sur l'avortement, il a pas insisté. Voilà. Voilà. Bon, si vous avez... Alors, tout dépend après. S'il y en a qui veulent rester pour plus de questions, hein, voilà, comme ça, mais bon, je vais faire mon exposé pour pas faire attendre ceux qui doivent partir, parce qu'il est déjà 15h20. Hein, voilà. Alors... Pardon ? Oui, très bien.
Hein ? Ou après, comme tu veux.
On va pas... beaucoup s'en servir pendant l'exposé, mais on n'a qu'à le distribuer.
Ce sera fait.
Il y en a deux, parce que j'ai fait en deux fois. Ça c'est parce que il y a toujours des gens qui disent mais il n'y a pas de papier et tout. Alors j'ai. Si mais alors si on le distribue maintenant, on va le survoler. Parce que, voilà. Alors j'attends que tout le monde ait... il y en a deux, parce que j'ai eu un regret après, donc... j'en ai fait deux. Hein? Alors, si, est-ce que tout le monde est prêt? Voilà. Hein? Alors, comme vous vous doutez, c'est pas la première fois que je fais ce type d'exercice, mais à chaque fois, je le revois. Hein? Et donc là, j'ai repris un plan que j'avais utilisé à l'époque où je faisais de la formation pour l'école de journalisme de Sciences Po, où à l'époque, le directeur était un type très bien, il trouvait que les futurs journalistes devaient être formés aux religions. Et donc il m'avait demandé de faire le judaïsme, il avait demandé à Poutier, que ça la connaisse, de faire le christianisme, et puis quelqu'un faisait l'islam. Hein. Et c'était sidérant de voir ces jeunes gens, qui étaient une élite, sélectionné à Sciences Po, à Bac plus 4, hein, on a parfois pas l'idée de l'ignorance dans laquelle sont les générations actuelles, quand elles n'ont pas eu de milieu familial, comme il dit, comment dire, formateur, ou quand elles n'ont pas suivi de catéchisme, hein, que ce soit juif, chrétien ou musulman. Et beaucoup de jeunes gens sont démunis. Voilà. Et donc, bon, en réalité, voilà, parce qu'il y a toujours cette, c'est important, cette illusion qu'on doit pouvoir se passer, si vous êtes là, c'est que vous avez compris que ce n'est pas le cas, qu'on doit pouvoir se passer de ces traditions religieuses, que tout ça c'est fini, hein, et que maintenant on peut revenir à la religion naturelle ou au calendrier révolutionnaire. Vous voyez, hein, que, hein, voilà. Et donc il y a des gens qui considèrent qu'être être laïque, c'est être ignorant. Vous voyez, hein. Et là, c'est la fameuse célèbre plaisanterie de ce rabbin en Israël qui discutait avec les jeunes d'un kibbutz, de l'extrême gauche, tout ça. Et puis, ils discutent et tout. Et puis, au bout d'un moment, il dit, écoutez, on ne peut pas discuter avec vous. Avec vos parents, on pouvait. Hein, parce qu'ils étaient athées et tout, mais ils connaissaient les traditions. Mais vous, vous êtes, pas des athées, vous êtes des ignorants. Hein, donc, allez étudier. Hein, voilà. Bon. Donc, en réalité, c'est ma conviction, c'est ce que j'ai découvert petit à petit moi-même, c'est que l'idée de faire abstraction de ce que j'appelle les religions historiques, hein, qui est une idée naïve des Lumières au XVIIIe siècle, est une fiction, parce que si on fait abstraction de l'histoire des religions, on retombe au point de départ. Hein, vu que la conscience morale s'est construite historiquement, ce n'est pas quelque chose de naturel. Et donc on ne peut pas mettre de côté les traditions en faisant voilà, comme si on était naturellement comment dire, des êtres moraux. Hein, voilà. Donc, il est. Alors, évidemment, c'est un peu effrayant parce que ça demande finalement beaucoup de culture, mais c'est à faire. Et d'ailleurs, j'ai vu. Il y a des écoles qui le font. J'ai vu dans l'école privée, là où est mon petit-fils à Londres, il m'a montré son manuel de religion, comme on dit, hein, et qui est un manuel qui prend en compte historiquement les traditions. Vous voyez qu'il faut que les enfants soient formés. Hein, ça, voilà. Même si on les. Comment dire. On doctrine pas, vous voyez, hein, mais qu'on les éclaire. Hein, on n'est pas celui qui n'a qui est ignorant. Hein, j'avais l'habitude au début de dire à mes élèves, donc, est-ce que vous avez fait le catéchisme? Non. Alors que faisiez-vous à 8 ans, vous, hein, vous lisiez le Capital. Hein, parce que quand j'étais petit, moi, il y avait les pionniers communistes. Moi, j'ai des copains qui ont lu Marx vraiment à 12 ans. Vous voyez, mais non. Alors, si vous lisiez ni Marx ni la Bible, vous lisiez quoi? Bah, Astérix, déjà, c'est presque catéchisme. Parce que, ah, si vous allez voir l'exposition. Ça aussi, j'ai fréquenté beaucoup Astérix quand j'étais jeune, mais j'ai découvert très tard la biographie de Goscinny. Hein, bah, bien. C'est un autre sujet. Donc, voilà. Ouais, on y va. Hein.